Bonjour Frédéric Moreau.
Bonjour Marie-Madeleine.
Donc vous êtes violoniste, vous avez été aussi enseignant et vous avez créé en 1995 l'ensemble Les Violons de France, dont vous assurez la direction et aussi le violon solo. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons échanger quelques propos, puisqu'en fait, comme vous êtes en tournée, et la tournée s'arrêtera le 17 juillet à Toulouse, plus spécifiquement à la basilique Saint-Cernin à 21h. Et donc, vous nous donnerez à entendre en première partie, si je puis dire, si mes renseignements sont bons, l'été de Vivaldi, et ensuite deux concertos de Niccolo Paganini que vous affectionnez particulièrement. C'est bien cela?
Exactement. Effectivement, l'été de Vivaldi, puisque c'est d'abord une musique que tout le monde
connaît, apprécie, oui, je pense.
voilà, qui est très intéressante, parce que c'est une fresque historique, et moi je l'apprécie particulièrement. Déjà, c'est une très belle musique, mais aussi l'été dans notre imaginaire est plutôt une saison heureuse avec les vacances, avec le soleil, la plage,
Les rencontres, oui.
Voilà, tout ce que ça peut correspondre de joyeux finalement. Et à l'époque de Vivaldi, lorsqu'il a écrit ce poème et qu'il l'a mis en musique après, il a plutôt dépeint, alors il a bien sûr dépeint les animaux qui caractérisent l'été, mais aussi la chaleur étouffante, l'orage qui vient saccager les récoltes, et on vivait au rythme des récoltes.
Bien
ça
sûr,
voulait
oui.
dire que peut-être que l'été allait conditionner une fin d'année extrêmement difficile. Et donc, ce n'est pas une saison, entre guillemets, heureuse, une saison violente dans cette espèce de fresque historique que nous a dépeint Vivaldi. Donc, j'aime beaucoup. En plus, c'est vraiment de la très belle musique.
Oui.
Alors, ça, c'est l'apéritif.
Oui.
Et il y aura les deux premiers concertos de Niccolo Paganini enchaînés, on va dire, dans la mesure où je ne fais pas d'entracte, mais je discute un tout petit peu de la vie de Paganini entre chaque pièce.
Alors,
d'abord, un petit peu de Vivaldi. Mais ça, c'est vrai que tout le monde connaît, mais Paganini a une vie tellement épique et tellement intéressante, il a tellement bouleversé toute l'histoire de la musique que c'est intéressant de s'y attarder un tout petit peu. Alors j'explique, alors c'est vrai qu'à la basilique de Saint-Cernin, qui est magnifique, j'ai joué très régulièrement depuis de nombreuses années, ça va être peut-être un petit peu compliqué de se faire entendre jusqu'au fond, mais j'aime bien quand même en parler un tout petit peu, parce que Paganini, c'est la rockstar
Du violon.
De la musique de l'époque, du violon notamment, mais du monde de la musique
oui,
de
oui.
l'époque. Dans toute l'Europe, il a parcouru toute l'Europe, et dans toute l'Europe, il créait des émeutes partout où il passait, tellement son talent était grand et reconnu, et aussi sa réputation le précédait.
D'accord. Donc c'est pour cela que vous avez choisi de le faire découvrir et de partager avec le public cet amour que vous avez de ce compositeur, de ce virtuose.
Oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, j'adore ce compositeur. C'est tout violoniste.
Et oui.
Il y a une sorte de challenge avec Paganini. On vit avec Paganini. Lorsqu'on commence le violon.
C'est le petit Paganini, oui.
On commence avec le petit Paganini. Mais en fait, on regarde les étudiants qui sont très avancés et qui commencent à jouer du Paganini. C'est tout de suite, il y a une aura particulière. Il est capable de jouer du Paganini. Et puis après, quand on commence à étudier Paganini, on est dans des zones de désespoir incommensurables. Je n'y arriverai jamais. Et au fur et à mesure, effectivement, il y en a beaucoup de violonistes ont eu beaucoup de mal à rentrer. On a tous du mal, en fait, à jouer du Paganini, parce que c'est de la musique exceptionnelle. Il avait des mains gigantesques, en plus, à cause de sa maladie. Et donc, ça reste toujours très compliqué, mais c'est tellement galvanisant, tellement... Parce qu'il n'y a pas que la dimension virtuose en Paganini, il y a aussi le bel canto, le chant magnifique, le chant de l'Italie. Et donc, voilà, c'est de la musique qui est enthousiaste, qui est très enthousiaste et qui provoque un enthousiasme dans le public, mais aussi c'est de la musique qui est très spectaculaire. Et j'ai envie de dire que dans notre période, on a besoin d'exceptionnel. Et jouer du Paganini, c'est se frotter à un challenge et essayer l'exceptionnel. Mm-hmm. Voilà, je pense qu'on a besoin de ça dans notre société, d'aller au bout de ce que l'on peut faire. Et mm-hmm. lorsque je joue du Paganini, à chaque fois, je dis, j'ai cette impression-là d'être devant... Vous savez, alors vous qui êtes à la radio, vous connaissez ça très bien, une table de mixage mm-hmm. avec plein de potentiomètres, mm-hmm. et vous mettez les potentiomètres à fond, et vous débrouliez
avec tout cela.
Mieux que vous mm-hmm. pouvez. Mm-hmm. Alors, par exemple, on met la vitesse. Parce que Paganini disait, si on n'est pas capable de jouer 100 notes à la seconde, il faut arrêter.
Bon. D'accord, exigeant avec ça.
Donc, la vitesse, le bel canto dont j'ai parlé tout à l'heure, le chant avec le vibrato. Moi, j'ai dans les oreilles le son de Francescati, par mm-hmm. exemple, ou d'Ivry Gitlis, ou des grands violonistes qui font vibrer, qui font chanter leur instrument d'une manière magnifique. Il y a ça, il y a le... Donc les montées entières faramineuses qui ont mmh. bouleversé à ce moment-là, parce que personne n'avait entendu ça avant Paganini, mmh. les doubles harmoniques, les pistes de main gauche, on met tous les potentiomètres à fond mmh. et on fait tout ce qu'on peut. Mmh. voilà.
Et combien de musiciens et de musiciennes vous entourent pour ces concerts-là, pardon?
Pour cette tournée, nous serons 5, c'est-à-dire qu'il y a un quatuor à cordes qui va jouer la partie d'orchestre sur une transcription que j'ai faite déjà il y a un petit moment pour le premier concerto et une partie du second concerto. Et j'ai un de mes amis violonistes et arrangeurs qui m'a aidé, qui mm-hmm. a fait une autre grande partie du deuxième concerto. Mm-hmm. Donc c'est un arrangement. Pour le premier concerto, si vous voulez, on n'a pas la partition originale de Paganini. Donc
d'accord.
la version qui existe pour grand orchestre n'est pas du tout meilleure que celle que je joue, dans la mesure où elle était jouée scordatura. Bon, c'est un petit peu technique peut-être pour mm-hmm. la radio. Je vais peut-être pas rentrer dans des grandes explications, mais Paganini reprenait ses partitions. Mm-hmm. Il donnait juste aux musiciens. Il voulait pas qu'on le copie, donc il les donnait aux musiciens et juste après le concert, il les reprenait.
D'accord.
Nous n'avons pas les partitions mmh. de l'orchestration de Paganini dans le premier concerto mmh. et elle a été réorchestrée par quelqu'un d'autre dont je ne me souviens plus le nom, qui l'a fait d'une manière un petit peu trop pharaonique, on va dire. Donc ça n'est pas la version traditionnelle, on va dire, n'est pas forcément la version qui devrait être jouée avec une orchestration à la Paganini. Le deuxième concerto, en revanche, a une très belle orchestration de Paganini mm-hmm. lui-même. Alors nous, effectivement, nous l'avons réarrangé pour pouvoir mm-hmm. faire avec un quatuor.
Un quatuor, bien sûr.
Voilà, en formation un peu plus réduite. Mm-hmm. Mais quand même, c'est du violon accompagné. Donc la partie, un peu comme dans les concertos de Chopin, la partie soliste prend quand même toute la place.
D'accord. Voilà. Parce qu'il faut préciser qu'en ce qui vous concerne, dont vous êtes le chef d'orchestre à cet ensemble, et vous êtes aussi violon solo, vous pouvez me parler de comment vous naviguez, si je puis dire, entre ces deux approches?
Alors, c'est très simple, je suis avant tout soliste, donc je suis violoniste, mm-hmm. et ça c'est mon... Voilà. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de violonistes qui dirigeaient eux-mêmes. Uh-huh. Le premier violon dirigeait lui-même l'ensemble, surtout sur des petites formations comme cela. Uh-huh. On pense à Vivaldi, bien sûr, uh-huh. qui faisait ça. Et je suppose que Paganini aussi, la plupart du temps. Alors, on fait confiance à ces musiciens, effectivement, dans un petit groupe. Uh-huh. C'est beaucoup plus facile, puisque on travaille ensemble régulièrement et on se connaît.
Vous connaissez bien, j'imagine. Oui.
Ben oui, mmh. donc effectivement il y a de temps en temps, on peut diriger un petit peu, mais ça se passe beaucoup avec une respiration commune, avec un petit mouvement de la tête du violon, et il faut effectivement se faire confiance les uns les autres et s'écouter. Ça fait partie des grandes qualités de la musique et qu'il faut absolument propager, mmh. c'est cette qualité d'écoute. Nous, en tant que musiciens, on est obligés de l'avoir, puisque ça fait partie de notre métier, et le moindre défaut d'écoute va engendrer des dysfonctionnements. Mm-hmm. Mais dans notre société, on a tellement besoin de s'écouter avant, avant toute chose, avant tout débat, il faut d'abord avoir la capacité de s'écouter, de se comprendre. Et ça, c'est très intéressant parce que dans notre petit ensemble, c'est quelque chose de primordial. Vu qu'il n'y a pas un chef qui va sécuriser, on est vraiment obligé de s'écouter énormément et de réagir au moindre petit geste, à la moindre petite respiration. Ça fait partie des choses très intéressantes de notre métier. Évidemment, comme toujours, c'est un équilibre extrêmement fragile. Tout peut arriver. C'est le côté live du concert très intéressant. Voilà, tout est en éternel équilibre. On essaie de rechercher cet équilibre qui n'est jamais acquis, qui est toujours à faire sur le moment.
À construire.
Le plus de professionnalisme et de passion possible.
Ouais. dans le moindre bruissement, si je puis dire, a son importance. Quoi. C'est vraiment une écoute permanente.
Oui, et c'est grâce à ça que l'émotion va se dégager. Mm-hmm. Si vous voulez, alors effectivement, j'adore les enregistrements qui sont très bien faits, qui sont impeccables, parce que ça donne un témoignage du parfait, on va mm-hmm. dire. Mais en concert, la véritable émotion est justement dans dans cette recherche d'équilibre incessante.
Dans cette fragilité aussi.
Cette fragilité qui va donner une sorte de surpassement de soi, mm-hmm. qui va nous forcer à un surpassement de soi et qui va justement créer ces moments, des moments magiques qu'on reçoit différemment chacun, mais voilà, mm-hmm. qui existent, qui ne peuvent exister que dans le spectacle vivant.
Mm-hmm. Et donc, puisque vous disiez qu'à notre époque, nous avions besoin avant tout d'écouter, donc d'une certaine manière, nous pouvons dire que la musique est une initiatrice pour tout le monde, enfin qu'elle peut apporter à tout un chacun, et au-delà de l'esthétique et de l'émotion, et aussi qu'elle peut non, justement démontrer cette capacité d'écoute.
Exactement, c'est-à-dire que la musique est un langage qui parle directement à nos émotions sans passer par les mots. Mmh. Et on est obligé de l'écouter, on est obligé de la recevoir, on ne peut pas faire autrement. Et ça donne quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais j'ai tellement d'anecdotes.
Si, un petit peu, oui.
Un petit peu, donc, j'ai tellement d'anecdotes. Je vais vous en donner une qui m'a mmh. particulièrement touchée.
Okay.
C'était il y a trois ans, peut-être trois, quatre ans aux États-Unis. Une dame, à la fin d'un concert, vient me voir, une dame âgée, et me donne, très émue, elle me donne une chevalière en or.
Mmh.
Elle me dit, voilà, l'année dernière, nous sommes venus avec mon mari, il y a 2 ans aussi, nous sommes venus écouter vos concerts avec mon mari. Cette année, je ne peux pas venir avec lui, puisqu'il est décédé. Il est décédé il y a quelques mois. Mmh. Et il aurait été ravi de venir à votre concert. Mais vous savez, vous avez joué la méditation de Thaïs tout à l'heure. La méditation de Thaïs, pour nous, les violonistes, et tout le monde a joué la méditation de Thaïs. Ce n'est pas une pièce de challenge, c'est une très belle pièce, mais voilà, c'est une pièce que l'on joue, on va dire, couramment. Voilà. Et donc, cette dame me dit, vous avez joué la méditation de Thaïs, vous savez, mon mari faisait du violon et il m'a séduite avec la méditation de Thaïs. Et lorsque je vous ai entendu, c'est comme si j'avais retrouvé mon mari.
Oui, des années auparavant.
C'est comme si elle avait fait un saut dans le temps.
Dans la rang, oui.
À chaque fois que je raconte cette histoire, vous savez, c'est extrêmement émouvant.
Oui.
Et en fait, cette dame-là, elle ne m'a pas vu jouer. Mmh. C'est là la magie de la musique. C'est-à-dire qu'elle a ressenti quelque chose que mmh. personne d'autre dans la salle n'a pu ressentir.
Bien sûr, oui. C'était très personnel.
Elle a ressenti. C'était non seulement. Elle, ça a joué sur des. On est dans Proust, on est dans la recherche du temps perdu. Elle était la seule dans la salle à pouvoir avoir cette émotion
bien
intense
sûr.
Et mmh. extraordinaire. Et je n'étais qu'un vecteur, mmh.
Un relais,
sur le moment,
un passeur.
Un relais vis-à-vis de cette histoire personnelle qu'elle a écoutée, mmh. or que des centaines de personnes ont écouté la même chose et n'auront absolument pas ressenti la même chose. Donc on est bien au-delà des mots, on est dans le souvenir, on mmh. est dans l'émotion pure, on est dans un langage mmh. qui est propre à chacun et c'est vital. C'est vital dans notre société aussi de prendre ce temps, parce que tout va de plus en plus vite, donc aussi avec du bon et du mauvais, mais voilà, tout va de plus en plus vite, il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de ressentir ces choses-là, parce que c'est essentiel, c'est notre vie, notre vie c'est ça, et cette dame, j'ai beaucoup d'émotions quand j'en reparle.
Je comprends.
C'est vrai que le fait qu'elle ait revu son mari qui était décédé deux mois auparavant, qu'elle l'ait revu pendant quelques instants et que ça lui donnait tout d'un coup fait ressortir les meilleurs souvenirs de sa rencontre avec cet homme, ça ne peut pas s'acheter. C'est quelque chose qui est vraiment vital et intéressant aussi bien émotivement que pour notre vie.
Mais puis c'est une fort belle histoire. Et puis j'ai vu en regardant votre CV, si on peut dire, même si le mot n'est pas très joli, que vous aviez eu de nombreux professeurs, parce que vous avez fait du violon depuis tout jeune, puisque c'est votre passion depuis tout petit, si on peut dire. Ensuite, vous avez fait aussi des études, master et doctorat. Et parmi les gens avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez appris aussi, et notamment humainement parlant, je pense, c'est aussi Yehudi Menuhin. J'aimerais bien que vous l'évoquiez en quelques secondes, s'il vous plaît.
Ah bah, Yehudi Menuhin, évidemment, c'est un des violistes les plus connus. Voilà, il a illuminé tout un siècle. Mmh. C'était déjà un enfant prodige.
Oui. Il a commencé à 4 ans, si mes soins, quelque chose comme ça.
Oui, voire avant, je pense. Enfin, je ne sais pas. Il faut toujours donner une date. Moi aussi, on me demande de donner des dates. c'est compliqué parce qu'on est avec, oui, avec l'instrument. On ne se rend pas compte. Mmh. On n'a pas de mémoire de moments avant, mmh, d'avoir fait de la musique. Voyez. Donc, mmh, même minuit, s'il a pris l'instrument, on a dit que c'était à 4 ans, le jour J, qu'il a mis des doigts sur un instrument, il avait forcément écouté de la musique, mmh, avant, il avait forcément l'oreille formée déjà, mmh, avant. Donc voilà, il est né avec l'instrument et c'était un enfant prodige, mmh, comme il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment quand même déjà un côté assez exceptionnel. Mmh. Lorsqu'on entend on a quelques témoignages de vidéos lorsqu'il était tout jeune et qu'il jouait, c'est vraiment fabuleux. C'est extraordinaire. Et il a énormément, énormément donné de sa personne, mmh, oui, aussi bien pour faire son métier, mais que pour apporter la musique dans des endroits où les gens n'y avaient pas accès.
Il n'y avait pas accès, oui.
Dans les hôpitaux, mmh, en temps de guerre, il a énormément donné pour que la musique puisse donner de l'espoir. Mmh. Vous savez, c'est très amusant parce que, enfin, non, peut-être pas si amusant que ça, mais c'est très intéressant en tous les cas de voir à quel point, lorsqu'il n'y a plus rien, la musique permet quelque chose. On se dit, les gens qui sont en temps de guerre ont besoin d'abord, oui, de nourriture, mmh, d'abord de choses peut-être vitales.
Matérielles, mais après, il faut autre chose, oui.
Et finalement, on ne se rend pas compte à quel point ça peut, la musique ou l'art, mmh, peut leur apporter quelque chose d'essentiel aussi. Mmh. Petite parenthèse, j'avais joué au Kosovo.
Oui.
Au tout début, il y avait encore les casques bleus, quasiment encore la guerre. Et ils avaient fait un festival. Et j'étais un peu étonné. Et la personne me dit, mais écoutez, voilà, on n'a rien. Oui. Ça fait des années qu'on se bat. Le fait de mettre de la musique un peu, ça nous fait exister.
Mmh. Exister, c'est autrement, oui, bien sûr.
Et avoir peur pour sa vie, avoir peur pour savoir si on va manger, tout d'un coup d'avoir quelque chose qui va nous emmener ailleurs, c'est comme si on existait de nouveau. Et, mmh, et la personne qui a fondé ce festival a dit, je veux absolument offrir à mes concitoyens,
à mes compatriotes,
mes compatriotes, un peu d'espoir. Mmh. Et la musique représentait effectivement cet espoir, mais ça peut être effectivement du théâtre, de la peinture.
La peinture, oui, bien sûr.
Quelque chose qui permet de s'évader,
de transcender, oui.
De retrouver, comme tout à l'heure on disait avec cette dame, un moment inoubliable de sa vie. Voilà. Et Minouine a beaucoup, beaucoup, beaucoup participé grâce à son talent, à ça. Il a joué dans énormément de camps, d'hôpitaux, de prisons, pour apporter autre chose aux gens qui malheureusement n'avaient pas accès à ça.
Oui, il avait une générosité vraiment incommensurable.
Voilà. Moi, je pense que c'est la chose que je retiendrai le plus de Yehudi Menuhin, c'est cette capacité à offrir à tout le monde ce que son talent lui permet.
Des instants de bonheur, entre guillemets, si on peut dire.
Exactement. De bonheur ou des fois d'émotion.
Oui.
Oui, l'émotion, le bonheur n'est pas forcément la seule émotion.
Bien sûr, oui.
Mais voilà.
Des moments d'intensité.
D'intensité que seules les personnes qui vont le recevoir pourront et vont pas le recevoir de la même manière, comme on a vu tout à l'heure avec cette dame. Mais voilà, c'est ce que je retiendrai le plus. Alors effectivement, c'est un immense violoniste qui a parcouru le monde et qui, grâce aussi à cette façon de parcourir le monde et de rencontrer tout un tas de différentes cultures, avait forcément en lui cette générosité,
cette richesse, ouais.
Voilà, cette richesse, parce que de voir différentes cultures, de parcourir le monde et d'apporter la paix, on va dire, grâce à la musique, ça ouvre sur une générosité et sur une compréhension du monde intéressante.
Et maintenant, je voudrais terminer l'interview, si vous voulez bien, en parlant de l'instrument sur lequel vous jouez, à savoir un violon du luthier Giovanni Battista Guadagni, j'espère que je prononce bien, et qui date de 1749, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est un très bel instrument italien. Il y a trois luthiers en ce moment qui sont très
prisés.
C'est effectivement Antonio Stradivarius, que tout le monde connaît ce nom,
mais oui.
il y a Il y a Guarnianus del Gesù qui est extrêmement prisé, peut-être même plus que les Stradivarius par les concertistes. Et puis, effectivement, Guadagnini. Mm-hmm. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr, mais ça fait partie des trois luthiers très intéressants. Et du reste, Paganini avait un Guarnianus del Gesù. Il avait plusieurs instruments, mais il avait un Guarnianus del Gesù qu'il appelait Il Canone. Mm-hmm. D'où le titre de mon dernier enregistrement.
De l'enregistrement, oui, d'accord.
En hommage au violon de Paganini, parce qu'effectivement, tout violoniste a une relation particulière avec son instrument.
Ben oui.
Et il l'appelait Il Mio Canone, parce qu'il avait un son tellement puissant que les gens disaient que c'est le son d'un canon. Mm. Voilà. Donc voilà, il l'appelait comme ça. Son violon, il est de 1743, le mien est de 1749. Peut-être que Paganini l'a eu entre les mains, c'est possible.
Par ce engin, voilà.
Il a certainement vu beaucoup de luthiers, touché beaucoup d'instruments, forcément. Après, il lui appartenait parce qu'on sait exactement quels étaient les instruments qui ont eu les faveurs de Niccolò Paganini. Mais notamment Il Canone, qui est conservé à Gênes dans sa ville natale, et qui ne sort que très rarement
de son écrin.
De son écrin, que voilà. Et c'est assez amusant parce que quand on le voit. Alors, on n'avait pas à l'époque de mentonnière, parce que maintenant on a ajouté pas mal de choses.
Oui, oui.
Et donc, il y a les poils de la barbe de Paganini qui sont incrustés dans le vernis.
D'accord.
Parce que, voilà, il était obligé de tenir son instrument, comme en plus il était grand. On le voit sur le beau tableau de la croix. On a l'impression que le violon est un jouet entre ses mains et qu'il l'a bien coincé sous le cou. Et quand on voit l'instrument de. Quand on voit Il Canone. On voit les pics à l'endroit de la mentonnière que nous avons, qui montre qu'il tenait fermement son instrument et que à tel point et qu'il a beaucoup travaillé parce que il y a des trous de poils de barbe dans le vernis.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre instrument? Comment le définiriez-vous?
Alors, il est très puissant aussi. C'est un instrument qui. Alors, il y a différentes manières de fabriquer les instruments, il y a différentes écoles, on va dire, effectivement, et il y a différents réglages. Il n'est pas très voûté, c'est-à-dire que souvent les instruments voûtés ont un son un peu plus velouté, mais peut-être moins puissant. Il est assez plat, donc c'est des instruments qui portent très loin. Donc ça... Mon instrument est comme ça, il a un son très puissant. Mm-hmm. Ce serait moi mis au canon et tout aussi. non, je l'aime beaucoup. Ça fait peut-être 5 ou 6 ans que j'ai ce partenariat avec lui.
Oui.
on le personnalise.
Ben oui, j'imagine.
On le personnifie un peu. Voilà, et c'est vrai qu'on a l'impression d'être avec une autre... une volonté propre, puisque l'instrument aussi réagit au climat. Moi, j'ai mon luthier qui je suis très ami, qui me dit de temps en temps, lorsque je rentre d'une tournée, on a une exigence. On se dit, bon, voilà, à ce moment, il est pas bien, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai un concert demain soir.
Est-ce que tu peux le soigner, quoi?
Tu peux le soigner, il doit être décollé. Non, là, c'est bon. Laisse-lui le temps. Mais non, mais ça va pas, il faut que demain, il sonne bien. Non, laisse-lui le temps, tu rentres de Corée, par exemple, t'as pas eu la même hygrométrie, là, il faut qu'il s'adapte. Laisse le temps au bois de s'adapter, on verra après s'il y a quelque chose à corriger. Donc, nous, on est un petit peu impatients parce qu'on a envie d'être performants.
Bien sûr, oui.
Il faut composer avec... je pense que les cavaliers doivent avoir aussi ce même sentiment. Je ne monte pas le... Mais disons qu'il y a une volonté il faut laisser le violon sonner, le laisser faire, ne pas toujours lui imposer sa propre volonté, parce que voilà, il faut laisser le temps, il faut laisser l'instrument vivre lui-même. Et c'est très intéressant en fait, parce qu'effectivement un violon qui serait extrêmement solide et qui ne bouge pas, on va dire un peu massif, il n'aurait pas cette sonorité intéressante. Donc voilà, on peut pas avoir tout et son opposé. Il est sensible, donc il réagit d'une manière sensible aussi au changement climatique.
Et depuis, dans quelles circonstances avez-vous, comment dire, choisi de jouer sur cet instrument, puis ce n'est pas trop indiscret?
Non, je jouais un instrument qu'on me prêtait et il y a eu un accident. Et donc il a fallu que je trouve un autre instrument, et donc c'était c'est un peu la panique donc, quand il y a
j'imagine, quelque chose
comme ça. parce qu'il faut s'adapter, vous savez, chaque instrument a une manière, une prise de son qui est très différente, et même des écarts.
Il vit, oui.
Voilà, par exemple, le violon que j'ai est assez grand, et celui que j'avais avant était assez petit. Donc, il faut le temps de s'adapter, surtout quand on joue des œuvres de virtuosité. On est vraiment au micron de millimètre près. Alors, le gros avantage, c'est que si on se trompe, personne ne meurt. Tandis qu'un pilote de ligne, s'il se trompe, je pense que...
Bon, c'est plus grave.
Voilà, ou un funambule, un trapéziste, par exemple, s'il retient... Voilà, s'il se trompe, à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences. Nous, les conséquences, c'est juste... sont juste esthétiques, mais on a quand même une très, très grande précision. Et dès l'instant qu'on change d'instrument... Voilà, il faut s'adapter, il faut parfois, on dit qu'il faut 3 ans pour s'adapter à un instrument, 1 an pour arriver à le faire sonner, puis après pour se sentir à l'aise avec. Donc, vous voyez, dès l'instant qu'il y a un accident avec un instrument et qu'on est obligé de changer, ça se passe, ça arrive, mais c'est toujours un peu angoissant. Et donc j'ai dû chercher un instrument et mon luthier, Florent Boyer, m'a présenté un jour cet instrument et voilà.
Vous êtes tombé en amour, comme disaient les Québécois.
Oui, j'aime bien, il faut que vous fassiez l'accent alors.
Je ne sais pas le faire.
Moi non plus. Oui, sur le moment, bien sûr. Après, il a fallu que je m'adapte.
Et parce que vous appreniez à le connaître.
Il faut qu'il m'accepte, il faut que je l'accepte.
Voilà, c'est un échange.
Voilà. Ça ne s'est pas fait tout seul, et maintenant, ça fait quand même pas mal d'années. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé cet instrument tout de suite, évidemment. Ça m'a, mais il a fallu que j'apprenne à jouer différemment, et c'est ça aussi qui est très intéressant. Ça permet d'ouvrir de nouvelles facettes à son jeu. Et c'est vraiment un partenariat, on ne se rend pas compte à quel point... On doit paraître un peu bizarre aux yeux des gens de se dire, mais il ce n'est, vous savez, un peu comme ces personnes qui parlent avec leur chien ou avec leur chat, et qui, on a l'impression qu'ils deviennent gâteux, normalement, parce que ils ont un dialogue tout à fait personnel, qui n'a aucun rapport avec la réalité. On a un peu ça avec notre instrument. On devient un peu gâteux, on lui parle, on lui dit des choses. Je me souviens très bien une fois où il était un peu décollé, j'étais en Finlande et je lui dis s'il te plaît ce concert demain je veux le réussir. sois sympa avec moi. Et alors c'est très rigolo parce qu'il a été très sympa avec moi et juste après il a eu un accident, un petit accident, mais qui l'a immobilisé pendant 2 mois. Et je l'ai regardé, je lui dis, toi t'es malin toi. Tu m'as donné ce que je voulais ce moment, mais tu t'es dit je vais prendre des vacances. Je lui ai parlé. Alors je suis peut-être gâteux, hein, c'est peut-être ça. Mais en tous les cas, je parle effectivement avec mon violon, c'est une sorte de personne.
Et est-ce que, alors je ne sais pas si ma question peut-être va vous paraître incongrue, mais est-ce que, bon, puisque c'est déjà un violon donc, qui date de 1749, pardon, est-ce que tous les ans, donc il a un an de plus si je puis dire, comme nous tous, et est-ce que il se bonifie avec le temps aussi?
Oui, alors, oui, oui. Les instruments en général se bonifient avec le temps, disons s'équilibre. Oui, parce qu'il y a des forces, vous savez, il y a 30 kg de pression sur le chevalet, avec la tension des cordes, et surtout, les tensions des cordes maintenant ne sont pas celles de l'époque. À l'époque, les cordes étaient en boyaux, pas le même renversement. Donc, on leur demande d'être de plus en plus puissants pour des salles de plus en plus grandes. On leur donne une pression supplémentaire dessus, et le bois s'adapte. Effectivement, nous avons maintenant les instruments qui restent de cette époque-là. C'est quand même, ils sont triés sur le volet. Tous ne sont pas restés, tous n'ont pas tenu.
Bien sûr.
Il y a eu des accidents, forcément, mais tous n'ont pas tenu avec les pressions qu'il y a. Il y en a qui se sont effondrés. Et donc, ceux qui restent sont, on va dire, un peu les meilleurs exemplaires. Donc, ceux qui sont faits vraiment pour durer, qui ont une sonorité intéressante, ceux qui sont restés, le temps a fait son tri. C'est comme les luthiers maintenant qui font des instruments. Il y en a certains qui vont certainement disparaître parce qu'ils ils sont pas suffisamment bien réalisés, mais il y en a qui vont parcourir les siècles et qui vont devenir qui sont déjà des très très bons instruments et qui vont peut-être devenir les Stradivarius ou les Guarnerius du siècle prochain. Donc l'histoire fait son tri, on ne retient finalement que les meilleurs, et il se bonifie aussi aussi avec les gens qui les ont joués. Mmh. C'est-à-dire que lorsque l'on... Je ne peux pas vous dire scientifiquement ce qui se passe, mais c'est quelque chose qu'on éprouve.
C'est une alchimie, oui.
Quotidiennement. C'est-à-dire qu'un instrument qui est bien joué va se bonifier très certainement, qui se met en vibration sur des notes qui vibrent d'une manière qui s'adaptent à certaines vibrations. En tous les cas, il y a des très beaux instruments quand ils sont mal joués, au bout de 15 jours, un mois, deux mois, plusieurs années, ils sont très difficiles à sonner. Et notamment, c'est pour ça que beaucoup de mécènes qui collectionnent des instruments pour des placements financiers, pour tout un tas d'autres raisons, ou par amour pour la lutherie, les confient à des violonistes parce qu'ils savent très bien que le fait qu'ils soient joués les bonifie, qu'ils soient bien joués. S'ils sont mal joués, ça fait l'inverse.
Oui, oui, je comprends.
Un violon qui est mal joué, il va falloir plusieurs années pour le récupérer. Mais alors, vous imaginez que, c'est là où c'est très intéressant, les plus grands musiciens de tous les temps, au fur et à mesure des siècles, comme Paganini, mais on parle récemment, par exemple, Ferras ou Francescatti, j'en parlais tout à l'heure, ils ont cherché des très bons instruments, ils les ont joués divinement bien, et il y a des instruments qui ont un passé de musiciens célèbres qui sont passés dans d'autres les mains de Paganini, de Sarrasate, de d'Isaïe, et ces violons qui ont été joués par des grands interprètes, et au fur et à mesure plusieurs générations de grands interprètes, vous imaginez que maintenant ils ont une manière de vibrer qui est unique,
exceptionnelle.
Voilà, c'est l'instrument lui-même est très intéressant, mais aussi la manière dont il a été joué au fur et à mesure des siècles, et du coup il a une personnalité qui correspond, alors qu'il va s'adapter forcément, mais ce serait dommage de se priver de ce passé. C'est un peu comme s'il y avait de l'ADN qui coulait dans les veines du bois des musiciens qui les ont joués avant.
Je vous remercie pour vous nous avez fait partager votre passion, votre sagesse et votre fantaisie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.